RPL 89.2.
Nous accueillons, nous retrouvons pour débuter cette nouvelle saison notre ami Hugues et nous allons accueillir également son premier invité. Bonjour Hugues.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous présenter cet invité, je dirais, qui est un peu la crème des youtubeurs et qui réunit audience et pertinence. Alors imaginez qu'on parle d'actu, on retire une certaine dose de mensonge qui est devenue un peu l'apanage d'une certaine gouvernance depuis quelques mois, mais en fait c'est aussi quelques années, hein, ça remonte, c'est venu doucement et progressivement, et puis beaucoup d'humour. Donc je vous propose d'accueillir ce jeune youtubeur qui a la trentaine, Rémi de Juste Milieu. Merci Rémi d'être avec nous par téléphone en direct.
Bonjour, merci à vous pour l'invitation.
Alors selon Aristote, juste au milieu, c'est un équilibre entre deux extrêmes fâcheux et c'est une position excellente, parfaite, optimale, voire courageuse. Alors comment vous définissez et à quel moment est né juste au milieu? Est-ce que c'est justement dans cette période troublée, déconfinement, où l'idée déjà germait un peu avant?
L'introduction est parfaite, effectivement, il y a cette référence à la philosophie, mais on peut aussi avoir la référence dans l'histoire, avec par exemple la période de la Restauration, où on parlait aussi de juste milieu. À ma toute petite échelle, l'idée, finalement, elle est assez simple, elle naît des moments qu'on a tous vécu, des débats entre amis, en famille, avec des collègues de bureau, où un sujet s'invite, souvent la politique, et puis on se rend compte que on n'est pas d'accord, mais qu'il y a quand même des points communs. Et souvent, le point commun, c'est le rire, c'est-à-dire qu'on a envie de se moquer un peu de la situation, il y a un décalage qui est un peu humoristique ou pas forcément, mais que dans tout clivage, il y a toujours un point d'équilibre où on peut s'entendre, on peut au moins débattre en acceptant que même si on ne sera pas d'accord à la fin de la discussion, on peut construire notre désaccord et aller chercher justement ce point d'équilibre. Et l'idée, avec Juste Milieu, c'est vraiment ça, c'est sur chaque vidéo prendre des sujets qui sont parfois délicats, hein, par exemple la guerre en Ukraine ou autre, et de montrer que si par exemple, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, si par exemple la personnalité de Volodymyr Zelensky a pu être décriée à un moment donné quand son nom a été cité dans l'affaire des Pandora Papers, ça n'est pas pour autant qu'en disant ça, on prend la défense de Vladimir Poutine. C'est trouver voilà ce juste milieu où on peut considérer des faits, on peut critiquer des choses sans pour autant soutenir l'inverse, quoi.
En fait, vous opposez quelque part aussi à une chasse à l'opinion ambiante, c'est-à-dire que on peut avoir une position plus nuancée et une vision peut-être plus équilibrée, avec un peu en s'éloignant du manichéisme, d'un esprit manichéen qui semble vraiment triompher aujourd'hui, où on ne peut être que pour que contre, on ne peut avoir que deux positions, et vous reflétez cette prise de parti. Vous qui êtes issu d'une école de commerce, qu'est-ce qui vous prédestinait à devenir à la fois un amoureux des arts et de la littérature avec votre projet précédent? Qui mélangeait humour et littérature, et puis sur celui-là qui, avec le même ton humoristique, là parle cette fois-ci d'actualité.
C'est vrai que oui, l'aventure a commencé en 2015, il faut aller dans les archives, avec une première chaîne YouTube qui s'appelait Let It Be, et je parlais, voilà, je faisais des chroniques de livres en essayant d'avoir déjà ce petit pas de côté sur l'humour, et puis petit à petit, très clairement par rapport au opportunisme, hein, parce que bah, sur YouTube, les thèmes d'actualité fonctionnaient un petit peu mieux que les thèmes littéraires, on va dire, j'allais de plus en plus vers l'actualité en le recoupant à chaque fois avec des références de livres, et puis petit à petit, je me suis dit, allez, il faut aller au bout de la promesse, au bout de l'aventure, et là est né juste au milieu, toujours avec la même idée de parler d'actualité en gardant ce pas de côté-là. Il y a bien sûr la rencontre aussi avec la philosophie. Avant d'arriver en école de commerce, j'ai eu la chance de faire une classe préparatoire pour les bacheliers professionnels à Strasbourg. Et la rencontre de la philosophie, en plus le thème du concours cette année-là, c'était la vérité. Donc comme quoi tout est lié. Et le but, bah, c'est finalement cette ligne rouge que j'essaie de suivre en me disant que malheureusement, alors, c'est plus je me range plus du côté de Nietzsche sur cet aspect-là, mais que la vérité finalement reste toujours inaccessible. Et qu'elle n'est qu'une sorte de trompe-l'œil qu'on va se tendre à soi-même en prétextant avoir la vérité contre les autres. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ce qui est formidable, c'est que tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Alors, le plus simple pour donner tort à quelqu'un, c'est de finalement de ne pas l'écouter, de le caricaturer, de le mettre dans une case de sorte à ne plus discuter avec lui. C'est ce qu'on voit par exemple sur, de manière très récente, sur la question du vaccin par exemple. Si vous discutez, ne serait-ce qu'en émettant des doutes ou en discutant simplement sur la question du vaccin, on va dire ah oui mais en fait comme vous discutez vous êtes anti-vax. Et à partir de là on vous prête une qualité qui fait que tout débat n'a plus lieu d'être avec vous parce que vous êtes presque un ennemi de la République. On a un président qui souhaite d'ailleurs vous emmerder. Donc ça, c'est que ça va loin. Et je prends ce débat-là, mais j'en prends plein d'autres, par exemple sur les complotistes ou sur les racistes ou toutes ces cases-là qui font que à partir du moment où l'adjectif est posé, le débat s'arrête. On ne débat pas avec le mal. Et donc là, c'est plus compliqué. C'est malheureusement la société qui est en train de se dessiner de ces cases-là qui nuisent vraiment au débat.
Oui, effectivement, ça peut se résumer dans cette citation. Tout le monde prétend avoir la vérité, mais personne n'a la même. C'est ce que vous disiez aussi à une interview, si je me souviens bien, à François. On va en arriver à votre implication, parce que quasiment, voilà, pas quasiment, mais citoyenne, autour d'une vidéo qui est née, dont l'idée est née après ce discours devant le Conseil des ministres d'Emmanuel Macron, qui annonce la fin de l'abondance pour les personnes qui se croyaient dans l'abondance depuis 2 ans, c'est la fin de l'abondance. Et là-dessus, vous rebondissez, vous lancez une pétition en demandant à ce que tout le monde se serre la ceinture, y compris nos élus. Et votre pétition, elle cartonne sur Internet. Et je pense que c'est un des premiers, en tout cas, une des premières actions citoyennes que vous menez à travers votre chaîne YouTube et votre site juste au milieu.
Ah, absolument. Alors c'est vrai que c'est une idée qui est assez simple et j'ai déjà eu des critiques et d'ailleurs qui sont tout à fait compréhensibles à dire c'est démagogique. C'est démagogique de partir du principe que comme on demande un effort à tous les citoyens, il est normal que par souci d'exemplarité, nos représentants, nos élus, députés, sénateurs et autres, montrent la voie et puis divisent leur salaire. Je rappelle quand même qu'un député ou un sénateur en France gagne un peu plus de 7000 euros par mois, même si on divise par deux. On s'en sort bien, ça reste quand même le double du SMIC, plus du double du SMIC en France. Donc bien sûr qu'il y a un aspect démagogique, et je l'assume volontiers. Donc la démagogie, c'est-à-dire la volonté de donner le pouvoir au peuple, ce qui est un peu le pendant, on va dire, un petit peu négatif de la démocratie, mais malheureusement, voilà où on en est. Et l'idée de cette pétition pour aller au bout, c'est surtout de dire aux gens, quel que soit votre parti, que vous soyez Rassemblement National, la France Insoumise, le Parti Socialiste, la République En Marche, enfin, quel que soit le parti, tous les représentants qui ont voulu être élus, notamment en période des législatives, ont mis en avant le fait de vouloir représenter les Français, de vouloir donner l'exemplarité. Ben, allez-y, quoi, démontrez-le. Et c'est juste ça, de tendre la perche en disant, finalement, ça n'est plus une question de parti. Aujourd'hui, soit tout le monde donne l'exemple dans un contexte difficile, comme le rappelle sans cesse le président de la République, soit on considère que c'est juste le bas de la pyramide qui doit payer, et on est dans un contexte, dans ce cas-là, qui est un petit peu différent par rapport au discours médiatique.
Oui, on peut rebondir d'ailleurs sur ce que vous dites pour se remémorer cet épisode savoureux où nos députés et sénateurs ont voté le pass sanitaire plus vaccinal qui empêchait certains Français d'accéder à certains lieux, à certains services, tandis que, évidemment, pouvaient continuer d'aller à l'Assemblée et au Sénat, juste éventuellement, ils auraient pu avoir des problèmes pour aller à la cantine du Sénat ou de l'Assemblée ou à la buvette. Voilà, parenthèse refermée, j'en profite pour, si vous voulez réagir là-dessus aussi, et puis j'en profite aussi pour citer cette sorte de compile, en quelque sorte des perles politiques, des faits politiques que vous sortez, je crois, une fois par semaine environ. C'est la farce tranquille, si vous voulez nous dire un peu un mot sur ce tour politique, en fait, on peut le définir comme ça?
Tout à fait, oui. C'est une émission en fait qui est tous les mercredis soirs à 18h sur la chaîne YouTube de Juste Milieu. C'est vraiment sur l'actualité politique des 7 derniers jours écoulés. Et l'idée, c'est pas simplement de rire de l'actualité politique, c'est aussi le but du jeu. Mais voilà, j'essaie de, tant bien que mal, de faire s'intéresser en fait les gens à la politique. Que en tant que citoyen, je comprends la position des gens qui effectivement aujourd'hui veulent plus le mettre le nez dedans, parce que voilà, il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup d'affaires, mais j'essaie de prendre le contre-pied en disant, il y a cette porte qui est celle du rire, où on peut se moquer de tous les partis, on peut rire de nous-mêmes en fonction de nos idées politiques et autres, mais que finalement c'est peut-être trop facile de dire je m'en désintéresse complètement, ça me regarde pas, et puis on vient tous râler tous les 5 ans en bon français aux élections présidentielles. Donc l'idée c'est ça, c'est voilà une petite revue de toute l'actualité écoulée des 7 derniers jours, et on est content, voilà. on est entre 100 et 200 000 spectateurs toutes les semaines sur cette émission. Donc c'est, et puis des retours qui sont positifs de gens qui justement ne s'y intéressaient plus et qui, bah, par cette porte de la rigolade, se disent, bah, finalement, voilà, remettre petit à petit le doigt dedans. Donc c'est plutôt chouette. Ouais.
Effectivement, ce ton qui vous est propre est particulièrement efficace dans cette farce tranquille avec un jingle d'intro vidéo qui est vraiment une perle. Est-ce que vous avez l'impression que pendant les mois difficiles, les mois de confinement, les mois de couvre-feu, les mois d'anxiété aussi, d'anxiété diffusée, cultivée, alors ça reste à définir par les médias mainstream, vous avez amené de la bonne humeur, vous avez amené du bien-être par le rire et puis aussi par enfin, travail qui relativise quand même un certain nombre d'idées reçues et martelées par les médias.
Bah, c'est vrai qu'il y a un retour qui est vraiment chaleureux de la part des gens dans les commentaires. En grande partie, les commentaires sont positifs en bas des vidéos. Le nombre de vues sur la chaîne grandit. On arrive doucement aux 2 ans de Juste Milieu. On a dépassé les 35 millions de vues. On a bientôt 280 000 abonnés. Donc les chiffres sont vraiment voilà, impressionnants. Mais là où j'ai pu vraiment mesurer l'aspect humain et la reconnaissance humaine qu'il y a derrière tout ça, c'est grâce à donc un humoriste belge qui s'appelle Stéphane Cuvelier qui m'a proposé de faire la première partie de son spectacle sur 3 dates à Montpellier, Lyon et Auray en Bretagne. C'était en juillet dernier. Et à la fin de chaque spectacle, j'ai pu vraiment rencontrer des spectateurs de Juste Milieu. On a échangé, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et là, j'ai pu mettre, on va dire, un peu du corps, mettre de l'humain sur ces statistiques YouTube qui sont plaisantes, mais qui restent des chiffres sur un écran. Et là, quand effectivement, vous serrez la main à des gens, vous prenez des gens dans vos bras, vous sympathisez, vous échangez avec des gens, bah, ça donne vraiment cette dimension humaine à l'aventure. Alors, je ne sais pas exactement dans quelle proportion, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a des gens qui se retrouvent devant les vidéos en famille ou entre copains, à regarder ça à table, à la télé ou sur le téléphone dans le bus, et que ça les fait marrer et qu'ils disent, bah, finalement, ils ne se sentent pas tout seuls, qu'on peut regarder l'actualité différemment, à la fin, ils continuent de penser ce qu'ils pensent. Hein. Le but, c'est pas de faire du prosélytisme, mais qu'ils se sont marrés, qu'ils se sont dit, bah, tiens, ce sujet-là m'intéresse, je vais creuser ou autre, bah, ça, c'est gagné, quoi.
Alors, on va continuer à parcourir des sujets récents que vous avez abordés. Sujet assez courageux, puisque vous êtes attaqué au sujet de la censure. Je crois que c'est un sujet dans la classe politique qui avait été assez peu soulevé. Hugo Vernalicis avait fait 2-3 interviews sur cette loi qui pose problème par rapport à la censure. Alors, votre vidéo revient un peu en arrière avec la loi Avia de la précédente quinquennat de Macron. La loi Avia qui avait été dénoncée, qui avait fait l'unanimité, mais l'unanimité contre, puisque voilà, elle avait entre autres été dénoncée par des entités aussi différentes que la Quadrature du Net, spécialiste donc des libertés et de l'Internet, Ligue des droits de l'homme, Conseil national du numérique et Comité national consultatif des droits de l'homme, entre autres, sans parler de différentes institutions de contrôle des lois. Donc l'histoire commence avec Avia, qui se fait retoquer de partout, et vidé de sa substance. Et puis, comme toujours, j'ai envie de dire, avec ce gouvernement, mais là, c'est aussi par l'intermédiaire de l'Europe, des dispositions reviennent, et vous posez cette question, est-ce que, alors c'est beaucoup plus vaste, parce que vous dites, est-ce que Juste Milieu pourrait être censuré pour contenu terroriste, mais ça, évidemment, c'est une question beaucoup plus vaste, qui pourrait s'appliquer à toutes les chaînes YouTube, à tous les médias, à tous les citoyens qui s'expriment. Alors, si vous voulez nous résumer un peu votre intervention dans cette vidéo très engagée.
Effectivement, comme vous le rappelez, hein, cet antécédent de la loi Avia, et comme souvent, ben voilà, on le chasse par la porte et ça revient par la fenêtre. Et là, c'était fin juillet 2022, donc en plus, c'est tout frais. Une proposition de loi qui émane de La République En Marche, qui a été adoptée directement en première lecture à l'Assemblée nationale, et une proposition de loi qui noie le poisson, mais qui ne se présente pas de la même manière que la loi Avia. Là, on parle, on dit que cette loi vise à imposer le retrait de contenu à caractère terroriste, donc forcément, terroriste, on imagine tous, hein, en tant que citoyen, et malheureusement, le terrorisme islamique ou le terrorisme d'extrême droite qui ont causé des drames terribles ces dernières années en France et dans d'autres pays du monde. Et on apprend en plus que cette loi est l'intitulé du projet de loi est une adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenu à caractère terroriste en ligne. Donc c'est une sorte de mise à jour du droit français par rapport au droit européen, ce qui d'emblée montre que ça aurait été compliqué de toute façon pour l'État français de le refuser. Ça passe dans un silence total, hein. Peu de gens en ont entendu parler. Il y a la France insoumise, il faut le reconnaître, qui ont fait partie quasiment des seuls à se lever contre ce projet de loi en parlant d'une atteinte manifeste à la liberté d'expression, comme ça avait été le cas pour la loi Avia, hein. Dans le fond, c'est exactement la même chose. Et tout ça, une fois de plus, dans une discrétion absolue, le 13 août est validé par le Conseil constitutionnel pour donc contraindre tous les éditeurs et les hébergeurs du web qui seraient soupçonnés d'héberger ce type de contenu dit à caractère terroriste, de les retirer dans l'heure sous peine de sanctions qui sont quand même assez musclées. On parle d'un an d'emprisonnement, 250 000 euros d'amende, et ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de la plateforme numérique. Donc c'est assez colossal, sauf que si je vous dis ça, si je m'arrête là, bon bah oui, effectivement, il n'y a pas forcément de problème, le contenu terroriste, c'est pas bien, on en convient tous.
Et là où vous avez été très fort, c'est que vous avez creusé donc dans la loi, il n'y avait pas réellement de définition de qu'est-ce que c'est le terrorisme. Oui, finalement, qu'est-ce que c'est le terrorisme ? Et vous avez été cherché donc dans le rendu du Conseil d'État, je crois, ou constitutionnel, qui eux ont fourni cette définition du terrorisme qui manquait dans la loi. Alors qu'est-ce que c'est le terrorisme selon cette loi ?
D'après le Conseil constitutionnel, j'ai repris les notes, hein, pour vous lire textuellement ce qui est écrit dans l'avis du Conseil constitutionnel qui précise ça et qui dit que ces contenus sont ceux qui, je cite, constituent des abus de la liberté d'expression et de communication qui portent gravement atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Donc il y a cette définition qui est encore assez floue. Et puis, le texte fait référence à d'autres textes du droit européen que j'ai continué à fouiller. C'est un véritable ping-pong qui est incompréhensible. Alors, nul n'est censé ignorer la loi, mais avec une telle complexité, bon courage. Et en fait, on se retrouve sur des textes en anglais, et où finalement, au bout du compte, et j'en ai même discuté avec des spectateurs de Juste Milieu avec qui on a creusé la question, au bout du compte, on n'a pas de définition réelle de ce qu'est un contenu terroriste. Et si on prend une définition assez simple, qui est celle du dictionnaire, un contenu terroriste qui vise à créer la terreur, ben c'est tout et n'importe quoi.
Oui, surtout que la notion d'ordre public qui est présente aussi dans le droit français est un concept qui est critiqué, qui a été beaucoup critiqué parce que justement il est flou. Donc on peut trouver qu'un trouble à l'ordre public, c'est tout et n'importe quoi. Donc c'est Absolument. Vraiment lié au jugement de la personne qui jugera. Donc qu'est-ce que c'est un trouble à l'ordre public ? Voilà, donc est-ce que justement il y a une communauté autour de Juste Milieu qui vous aide à préparer les sujets, qui attire votre attention sur des points comme celui-là qui pourrait être un point de détail, mais finalement qui est un point extrêmement important de cette loi et des libertés en France ? Vous recevez un peu comme François une communauté autour de vous qui vous aide, qui travaille, qui alerte ?
Ben effectivement, j'ai beaucoup de gens qui me partagent des articles, qui me partagent des points de réflexion, des éléments qu'ils ont pu voir à droite, à gauche, sur les réseaux sociaux ou autres. Donc ça permet vraiment de nourrir les vidéos. Donc voilà, je peux m'appuyer sur plein de gens effectivement qui m'aident au quotidien pour dénicher tout ça. Mais bon, il y a beaucoup de choses, c'est dur de suivre le rythme, surtout en ce moment.
Alors, on va revenir à quelques mois en arrière, si vous voulez bien. Sur votre ancien projet, hein, qui peut-être vous nous direz s'il continue un peu sous forme de Juste Culture, donc sur YouTube ou toujours sur Lettre ItBe, joli jeu de mots, Lettre ItBe. Vous aviez fait donc une analyse de cette vidéo qui a fait beaucoup parler, de ce film documentaire de Pierre Barnérias. 6 millions de personnes auraient cliqué des liens se rapportant au docu. Vous avez fait une analyse courageuse sur ce documentaire qui a été le plus souvent finalement critiqué sans creuser, simplement mis au rang de complotiste. Finalement, dans ce documentaire, il y a deux parties. Il y a une partie qui compile les erreurs du gouvernement, ou là, qui repose plutôt sur des faits. Cette partie 1, où il y a relativement peu d'erreurs. Et puis, la partie 2, qui sont des théories issues de la situation et des observations, qui, évidemment, sont des hypothèses. Est-ce que c'est ce mélange des genres qui a pu, à votre avis, déchaîner les foudres, ou simplement quelqu'un qui s'est mis à parler d'une voix très dissonante ?
Bah, disons que ce documentaire, c'est un vrai cas d'école, et ça l'était dès sa sortie. Parce qu'il y a eu donc déjà la figure de Pierre Barnérias qui est intéressante, parce que c'est une personne qui vient tout droit du milieu des médias, qui a travaillé chez France 3, hein, si je dis pas de bêtises, France Télévisions.
Ouais, beaucoup de médias, Ouest France, beaucoup de médias réputés, une cinquantaine de documentaires à son actif,
Voilà.
dont trois ou quatre récompenses importantes. Donc oui, effectivement, quelqu'un qui est vraiment du milieu et reconnu.
Absolument. Donc une personne là qui vient du Sérail, comme on dit, donc compliqué à critiquer et dire que du jour au lendemain il serait devenu un incompétent. Et puis les propos en tant que tels, dès la première vidéo que j'essayais de proposer sur Let It Be à l'époque sur ce documentaire, l'idée que j'avais est la même qu'aujourd'hui, 2 ans après. C'est que il y a une critique de la gestion du gouvernement. C'était encore assez frais, ça faisait quelques mois que cette pandémie avait démarré. Donc, on a une critique qui restait subjective, où on pouvait estimer comment on pouvait juger l'action du gouvernement, peut-être avec une manière un peu différente de ce qu'on pouvait voir dans les médias. Ça, c'est une chose, ça me semblait assez sourcé, mais à la limite, bon, on était dans le feu de l'action. Mais justement, on était dans le feu de l'action. Et ce que j'ai trouvé passionnant sur le plan presque philosophique, en fait, et le plan intellectuel, c'est qu'on avait des organes de vérification de l'info. Alors déjà là, on pourrait discuter pendant 1 heure, mais c'est pas le sujet. On avait des organes de vérification de l'information qui est sur la deuxième partie du documentaire, donc celle qui était plus dans l'hypothétique, qui parlait plus du futur. On avait donc par exemple Check News, on avait des organes de vérification comme ça, les décodeurs du monde et tout, qui arrivaient à nous dire que ce que prédisait le documentaire était faux. C'était faux a priori. Or, si on parle de quelque chose qui est censé se produire dans le futur, ni vous ni moi n'avons les preuves. Donc, moi comme vous, ça me semble impossible de pouvoir vous dire que vous avez tort, vu que c'est précisément dans le futur. Et là, on avait des checkers de l'information, des fact-checkers, qui arrivaient à faire ça. Donc j'ai trouvé ça passionnant, en fait. C'est-à-dire que le documentaire avait tort a priori. Et
C'est-à-dire que des
pourtant.
fact-checkers sont en train de fact-checker l'avenir sur ce qui ne
Bien sûr.
peut pas arriver dans l'avenir. Donc ce sont des voyants fact-checkers.
Absolument, mais c'est complètement absurde. Intellectuellement, c'est complètement absurde. Si vous me dites dans 1 semaine il va faire beau, que je vous dis c'est faux, j'ai autant de preuves que vous. On a tous les deux des prévisions météorologiques, notre lecture va en différer, mais la réponse, on l'aura que dans 1 semaine. Et quand Hold Up évoque la question du pass vaccinal, je crois qu'il parle de ça, il parle du QR code et tout ça, ben aujourd'hui, qui peut leur donner tort? Pourquoi n'en reparle-t-on pas? Pourquoi n'avons-nous pas des excuses de certains médias? Alors, ça, c'est ce point-là sur lequel c'est intéressant, mais il faut aussi rappeler, voilà, pour rester juste au milieu, comme quoi c'est pas qu'une blague, il y avait aussi quand même des propos dans le documentaire. Je pense par exemple à ce que disait la sociologue Monique Pinson-Charlot, qui parlait d'un génocide, je crois, qui avait eu des termes assez lourds, et sur lesquels elle était revenue d'ailleurs. Et donc voilà, pour dire aussi, pour nuancer mon propos et pour dire que ce documentaire, à mon sens, à mon avis tout à fait subjectif et personnel, n'avait pas tout juste, quoi, n'avait pas tout bon non plus.
Juste milieu, voilà, c'est ça, c'est justement plusieurs façons de voir qui, et puis essayer de trouver justement cet équilibre que vous recherchez. Peut-être un mot pour conclure sur, d'une part, le modèle économique, puisque vous êtes une chaîne YouTube rémunérée, sur la censure, est-ce que vous avez été victime de censure comme moi je l'étais avec l'interview du docteur Ox, que j'ai publié 2 fois sur YouTube, dont une fois où j'ai bipé tous les mots sensibles et j'ai quand même été censuré. Donc comment vous avez trouvé à la fois ce juste milieu pour pas être censuré, ou avez-vous tout été censuré sur certaines vidéos? Et puis donc le modèle économique sur YouTube. Et puis peut-être aussi les projets, puisque j'ai vu que sur Juste Milieu, il y a à l'horizon un journal papier, si je me trompe pas, qui pourrait apparaître. Et puis du merchandising, donc voilà, peut-être sur vos projets, puis sur la censure, et
Absolument.
puis sur le modèle économique.
Alors ben, les projets, pour vous répondre dans l'ordre, les projets, effectivement, il y a la revue donc juste mensuelle, on arrive au numéro 10. Ce sera le numéro de septembre. L'idée, c'est voilà de prolonger les réflexions qu'on peut avoir dans les vidéos sur un format différent qu'un format écrit. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler avec 5 personnes différentes, d'horizons différents. Je pense à Emmanuel Picardie, qui est philosophe à l'Université de Louvain en Belgique, Marion Messina, romancière et journaliste. Voilà, j'ai plusieurs personnes d'horizons différents et qui viennent traiter l'actualité en faisant le pas de côté de leur spécialité. Je pense à Loïc Besnier, par exemple, qui est un expert, un fou de cinéma, et qui nous prend des thèmes d'actualité. Par exemple, il a pris le transhumanisme à travers le cinéma, comment on peut réussir à réfléchir sur ces questions-là à travers le cinéma, à travers la philosophie et autres. Donc c'est vraiment l'idée de la revue. Aujourd'hui, on a des lecteurs qui sont de plus en plus nombreux. Le but, très clairement, c'est aussi une source de financement pour Juste Milieu. Donc c'est une revue mensuelle. Il y a la possibilité sur notre site internet de prendre un abonnement trimestriel ou annuel. Et cette source de revenus-là nous permet en fait de développer nos autres projets, notamment Juste Culture, donc une autre chaîne YouTube qu'on a lancée il y a un mois, où on va traiter de thèmes culturels tout à fait variés, l'opéra, le rap, la littérature, le cinéma. On fait un peu la même dynamique, la même logique, mais sur une nouvelle chaîne, pour une nouvelle aventure. Donc voilà pour les projets de Juste Milieu. Et pour vous répondre sur la question de la censure, bah c'est tout frais. Jusqu'à présent, je touchais du bois, c'était jamais arrivé. Et là, récemment, on s'en est à peu près rapproché avec, pour vous raconter rapidement cette histoire, je pense que vous avez suivi du missile cheminé, ce qui était passé sur France 2. Donc un reportage sur France Télévisions, sur France 2, qui filmait les abords de la centrale de Zaporodjé en Ukraine, actuellement bombardée, on ne sait pas vraiment si c'est par les Russes ou les Ukrainiens. France 2 filme, montre une cheminée abîmée en disant « Regardez ce missile planté dans le toit et qui n'a pas explosé à quelques dizaines de mètres de la centrale. » Donc l'image est effrayante, on se dit « Mince, on est au bord d'une catastrophe nucléaire, sauf que c'est une cheminée. » Alors, ce qui n'exclut pas les réels bombardements, hein, qu'il y a, mais là, pour le coup, c'était une cheminée. Et donc, je me suis amusé à faire une petite vidéo pour les réseaux sociaux. C'était le 20 août, le 22 août, soit 12 jours après la publication du reportage sur France 2. Là, France 2, la société journaliste de France 2, publie un communiqué sur les réseaux sociaux en s'excusant, en reconnaissant, je cite, une fâcheuse erreur. Et le lendemain ou deux jours après, il y a 20 minutes, le journal 20 minutes, qui a fait un article en citant ma vidéo, en disant, voilà, l'internaute Juste Milieu a parlé d'une fake news. Et non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que France 2 s'est excusé et a dit que c'était une fâcheuse erreur. Donc, sous-entendant que j'avais menti, là encore, a priori. J'avais pratiqué une fake news, j'étais moi-même responsable d'une fake news, sans savoir ce que France 2 allait dire deux jours plus tard, en fait. Donc voilà, voilà un peu où on en est. C'est un cas de... Voilà, on peut pas parler de censure, ça reste assez cocasse pour l'instant, mais affaire à suivre, quoi.
Merci Rémi de Juste Milieu. Juste Milieu, donc le site juste-milieu.fr et puis la chaîne YouTube, bien sûr. Bon vent, bonne continuation. Merci de ce moment passé ensemble et à bientôt.
Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. Au revoir.
RPL. RPL. Au cœur de la Lorraine. 89.2. 89.2.